Eh non, ce n'est pas du gloubi-boulga. C'est de l'herbe. De l'herbe.
Ah, dichats à toutes, c'est Dany Baillet, le gourmandas. Le gourmandas, pourquoi? Parce que dans notre belle langue gasconne, le suffixe a une importance capitale. Regardez par exemple un chien, une can. Si vous y ajoutez hotte, c'est un cagnotte, un petit chien. Si vous y ajoutez oum, ça fait un cagnoum, un mignon petit chien. Et si vous ajoutez a, ça fait une cagnasse. Et là, ça se passe de commentaires. Adichats à tous. Aujourd'hui, eh bien, nous allons parler de gourmandise pure s'il en est, car avec la découverte d'une Bible dont nous avons tous entendu parler, plus ou moins, mais bon, que là j'ai dans les mains, donc c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, une Bible de la gastronomie, et là, quand vous rentrez dans un domaine comme ça, évidemment, c'est le choc. Et pour tout vous dire, je suis tombé, grâce à l'intervention de l'ami, sur une Bible extraordinaire, celle de Auguste Escoffier, rien que ça, un homme savant et qui, au siècle dernier, à la fin du 19e siècle, a mis en place donc la nouvelle cuisine, ce qu'on appelle aujourd'hui la nouvelle cuisine, la nouvelle organisation des cuisines, voilà, dont nous allons parler, mais surtout créer une véritable Bible gastronomique, une Bible du bonheur gastronomique, quelque chose comme 900 pages pour 5000 recettes, rien que ça, et vous allez voir dans des conditions que nous sommes loin de suspecter. Pour tout vous dire, aujourd'hui, alors même que nous ne pouvons même plus nous livrer à la fabuleuse pratique de la chasse à la matole, en interdit que nous sommes seulement d'y penser, eh bien, me reviennent alors des moments fabuleux et qui transcendent tout ce que nous avons hélas déjà presque oublié. Ainsi en va-t-il de l'ortolan, de la grive ou autres oiseaux gibiers, dès qu'ils sont à notre portée de poêlon. Alors que mon esprit vagabonde souvent la nuit et que je reste douillettement cantonné sous la couette que je rappelle inventée par M. Séverin Graciano, je me plais à me rappeler ce demi-siècle plus tôt, puisque je commence à prendre un peu de bouteille, ou en famille. Eh bien, nous pratiquions la chasse sous toutes ses formes, dans le but de varier notre ordinaire essentiellement. Songez qu'à cette époque, peu reculée, nous mangeons en famille du gibier à peu près un jour sur deux. La ferme était petite, à l'époque moins de 20 hectares, mais les parcelles nombreuses, alors là, plus de 20 hectares. À ce jour, une seule parcelle définit la même surface, avec au milieu un pivot d'irrigation qui entretient la monoculture subventionnée du maïs, mais qui peu à peu a tué toute vie du sol, éliminé tous les arbres et surtout toutes les haies. Bien sûr, nous y chassions l'ortolan, le roi, l'alouette des champs, le pinson, seul autorisé, toutes les autres espèces capturées étant, je le rappelle, relâchées. La chasse la plus élaborée était la chasse à la matole, à trapiote, comme on dit dans l'Outland, un piège tendu en équilibre sur un fil balancier et qui permettait de prendre les oiseaux vivants. Bien sûr, parmi tous, on en a déjà parlé dans cette émission, le roi ortolan, sommet gastronomique, véritable mythe pour le dégustateur averti et seul privilège du chasseur qui décidait d'où et avec qui le consommer. Une visite dans une Bible gastronomique un jour de mon ami Eric Costedoit après un repas délicieux fait de neuf mollets au jambon, servi dans une sauce de cèpe, nous amène à deviser sur l'ortolan tous les deux. Et il me livre sans hésiter le chef-d'œuvre d'Auguste Escoffier, une de ses bases de travail depuis toujours, lui-même saluant l'aide et la mémoire d'Urbain Dubois et Émile Renard, de fabuleux compères gastronomes dont les ombres emplissent encore l'horizon culinaire et dont cette Bible d'Auguste Escoffier se place sous leur héritage posthume. Auguste Escoffier, en quelques mots, au XIXe siècle, déjà dresse pour lui-même et pour l'essentiel de ce qui deviendra la grande cuisine moderne, en même temps que l'organisation des cuisines, avec rigueur et méthode, il place la brigade, c'est son nouveau nom, sous le sceau de la formation autant que la dévotion au patron formateur. Son but, simplifier la cuisine et le service en la rationalisant, sans pour autant lui faire perdre son âme. Un sacré challenge. En d'autres termes, en simplifiant, il faut par exemple amener de l'architecture, c'est très dans les tons maintenant, mais seulement si cette architecture apporte un plus à l'édifice gustatif et non le contraire. Pour lui, l'art culinaire, pour la forme de ses manifestations, dépend de l'état psychologique de la société. Rappelez-vous quand même que nous sommes en 1898. Il suit nécessairement, et sans pouvoir s'y soustraire, les impulsions qu'il reçoit de celle-ci. Là où la vie aisée et facile n'est troublée par aucune préoccupation, c'était le cas pour un minimum de gens, comme ça l'est actuellement, où l'avenir est assuré et à l'abri des chances de la fortune, l'art culinaire prend évidemment toujours un développement considérable, parce qu'il contribue à l'un des plus agréables parmi les plaisirs qu'il soit donné à l'homme de goûter. Au contraire, là où la vie est active, où les mille soucis de l'industrie et du négoce accaparent à l'esprit de l'homme, celui-ci ne peut donner à la bonne chère qu'une place restreinte dans ses préoccupations. Le plus souvent, la nécessité de se nourrir apparaît aux gens emportés par le tourbillon des affaires, non plus réellement comme un plaisir, mais comme une corvée. Ils considèrent comme perdu le temps passé à table, et ce qu'ils exigent avant tout de ceux qui ont charge de les sustenter, c'est de ne jamais les faire attendre. Imaginez cette réflexion, ce guide imposé à l'époque tout naturellement par Auguste Escoffier, avec une bible totale de 900 pages pour 5000 recettes comme une réponse à ses attentes. Quelqu'un de vraiment très 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 visionnaire s'il en est. Et cet ouvrage prodigieux qui guide l'art culinaire est au changement amené par Auguste Escoffier, quelque chose qui donne un souffle nouveau. Changement dans la cuisine, on l'a dit, dans l'organisation, la mise en place d'une équipe qui travaille avec des tâches différenciées et des tâches empiriquement cumulées, un changement dans le format des assiettes notamment, et surtout du nombre de pièces qui les composent, avec un minimum de 5 pièces maximum, légumes et viande ou les poissons, à travers une seule assiette. Allègement des formules trop lourdes et complexes, qui à l'époque dictaient la cuisine qui était très riche, très roborative, de gens qui pouvaient participer à ce qui était plus souvent un banquet qu'un repas. Rappelez-vous les plats dans les peintures flamandes de Bruegel l'Ancien, et c'est la fin du Moyen-Âge, et on voit les riches qui sont les beaux, qui sont les gros, et on voit les pauvres qui sont les maigres. Et le tableau des maigres et des gros qui indique cette ségrégation et cette différenciation où la richesse, bien sûr, était très ségrégative à travers l'alimentation. Alors, allègement des formules trop lourdes ou complexes, on l'a dit bien sûr, élimination des vieux procédés trop longs, et en quelque sorte, Auguste Escoffier nous résume ça en disant que l'extrême complexité de la cuisine moderne se tiendra en son infinie simplicité. Alors la chute n'est pas facile, bien sûr, pour tous ceux que le monde des saveurs giboyeuses a laissé pour compte. Mais pour les autres, curieux et gourmands comme nous le sommes, voici, après cette juste commémoration du génie du maître de la cuisine moderne, quelques recettes tirées de son colossal ouvrage de recettes encyclopédiques. Alors nous allons non pas par vengeance, bien sûr, mais triste souvenir, mais parler de l'ensemble des petits gibiers que nous avons pris et consommés comme une seule fête, qui aujourd'hui sont plus ou moins autorisés à la capture comme à la consommation. Vous allez voir que dans ce micel incroyable, ce que nous croyions connaître à l'époque, des grandes recettes des mets les plus fins, nous sommes proposés à travers des recettes chaudes, mais froides aussi, ce qui est assez prodigieux et assez improbable, et surtout des associations de goûts tout à fait inattendues. C'est le cas bien sûr de l'ortolan, ou benarite, le bien nourri, à travers laquelle nous allons regarder quelques recettes générales, celles que nous connaissons, mais aussi les différenciations à travers les recettes chaudes d'Auguste Escoffier et les recettes froides, tenez-vous bien. Donc il me tarde déjà de vous en parler après une petite minute musicale.
Parlez-moi de la pluie et non pas du beau temps. Le beau temps me dégoûte et me fait grincer les dents. le bel azur me met en rage, car le plus grand amour qui me fut donné sur terre, je le dois au mauvais temps, je le dois à Jupiter. Il me tomba d'un ciel d'orage. Par un soir de novembre, à cheval sur les toits, un vrai tonnerre de Brest avec des cris de putois allumer ses feux d'artifice, bondissant de sa couche en costume de nuit, ma voisine affolée vint cogner à mon nuit en réclamant mes bons offices. Je suis seul et j'ai peur, ouvrez-moi par pitié, mon époux vient de partir faire son dur métier. Pauvre malheureux mercenaire, contre un coucher d'or, quand il fait mauvais temps, pour la bonne raison qu'il est représentant d'une maison de paratonnerre. En bénissant le nom de Benjamin Franklin, je l'ai mis en lieu sûr entre mes bras câlins. Et puis l'amour a fait le reste, toi qui sèmes des paratonnerres à foison, que n'en as-tu planté sur ta propre maison? Erreur on ne peut plus funeste.
MDM, tout un monde.
Tout un monde.
Et oui, on a tous en tête, bien sûr, des recettes merveilleuses, une recette merveilleuse, souvent allié à un mets, le miracle de cette grande bible culinaire d'Auguste Escoffier, si j'arrivais, c'est surtout de nous donner pour chacune de ces recettes, eh bien une foultitude d'autres recettes absolument improbables, et je ne vais pas résister au plaisir, bien sûr, de vous les présenter. Alors je vais commencer par le roi de nos plats ici, même si aujourd'hui il fait un peu défaut à nos tables, puisque malheureusement il nous est interdit de le capturer et encore donc plus de le consommer. Bien sûr, c'est l'ortolan, puisque juste cette recette que nous connaissons, l'ortolan dans sa cuisson, une cuisson qui se suffit à lui-même, on dit qu'il se suffit à lui-même, et ne devrait être dégusté que rôti. C'est une vérité gastronomique entretenue et par nous tous, les chasseurs, anciens chasseurs, et surtout dégustateurs d'ortolan, depuis une vérité depuis longtemps proclamée. Donc les éléments qui lui sont donnés comme auxiliaires, tels que le foie gras ou la truffe, lui sont plutôt nuisibles parce qu'ils lui enlèvent la subtilité de son fumet, et j'adhère un peu à cette idée, et l'atténuation de celui-ci est d'autant plus sensible que l'arôme sui generis de ces éléments est plus prononcé lui-même. Il se peut que ce soit alors un mets classé parmi les grands mets, non pas parce que son prix est élevé, mais ce n'est point un mets de véritable gastronome. Néanmoins, nous devons donner ici quelques formules le concernant, recommandant, évidemment, de le mettre entier dans la bouche pour ceux qui un jour peut-être y arriveront à nouveau. Nous espérons que cette crise sera cyclique, cette crise de dégustation, et évidemment sans jamais le désosser. Alors rappelons-nous pour les chanceux comme moi qui ont eu la chance de le consommer plusieurs fois, qui ont été un peu initiés, que l'ortolan, donc, c'est un plat qui se consomme grésillé, c'est-à-dire cuit dans un petit ramequin avec un tout petit peu d'eau et d'alcool, une fleur de sel dessus, qui cuit quelques minutes, et donc dont la graisse doit se fondre sous la peau sans éclater la peau, et que nous mettons ensuite par le cul dans la bouche, comme un gros bonbon, voilà, et dans lequel, avec la serviette sur la tête, nous allons créer une petite cloche pour déguster ses parfums, profiter de ses parfums dans une petite bulle, voilà, tranquille, pendant une quinzaine de minutes. Alors bien sûr, voilà, ce que je sais et que nous savons, ceux qui ont eu la chance de le déguster, de l'ortolan, bien voici comment une bible culinaire comme celle d'Auguste Escoffier nous emmène des tas de recettes. Et écoutez plutôt, l'ortolan en caisse, tenez-vous bien déjà, pour en avoir des caisses, il faut quand même en attraper quelques-uns. Il nous recommande de farcir les ortolans avec gros comme une noisette de foie gras. Ensuite, envelopper chacun dans un carré de mousseline garni d'un fin salpicon de foie gras et de truffes. Les napper de fumée de gibier très réduit. Il faut quand même déjà y aller. Donc ça veut dire que l'ortolan n'est plus du tout dans la recette pure telle qu'on pouvait le consommer jusque-là. Autre recette, l'ortolan au quetsch. Il faut quand même l'imaginer. Après le rôtissage, ceci est le meilleur après qui convient aux ortolans, d'après Auguste Escoffier. Donc partagé en deux de très grosses couettes, je rappelle que c'est une prune violette grosse, un peu comme un pruneau, mais beaucoup plus amère, beaucoup plus acide. En retirer le noyau, les ranger sur une plaque, garnir la cavité de chacune d'une noisette de beurre et les mettre au four. Lorsqu'elles sont presque cuites, placer sur chaque moitié de prune dans 4 minutes dans un four très chaud. En les sortant du four, les saler légèrement, les arroser au pinceau avec du verjus. Déjà faut-il en disposer. Ils se servent tels quels, mais la prune ne se mange pas. Elle est simplement pour servir de support à l'ortolan. Vous voyez quand même des choses qui sortent de l'ordinaire. Alors là, un plat très très recommandé, parmi les plus recommandés par Auguste Escoffier à l'époque, les ortolans au suc d'ananas. Donc là, on fait un suc d'ananas au beurre à côté et on cuit l'ortolan comme il se cuit de façon naturelle, c'est-à-dire dans le four, et on les mélange au dernier moment. Ensuite, une recette incroyable, les sylphides d'ortolan. Garnir à moitié avec une farce mousseline d'ortolan à l'essence de truffe, de toutes petites cassolettes en argent ou en porcelaine beurrée. Placer ces cassolettes à l'entrée du four pour pocher la farce. Cuire au beurre pendant 3 minutes seulement, autant d'ortolans qu'il y a de cassolettes garnies, mais ça c'est magnifique, et en temps voulu pour qu'ils soient prêts, juste au moment où la farce est pochée. Alors ça nécessite quand même de n'être pas le premier venu. Placer ensuite un ortolan dans chaque cassolette, les arroser du beurre noisette additionné d'un peu de glace de viande fondue et de suc d'ananas. On revient à l'ananas. Servir de suite, ça je n'en doute pas. Imaginez un peu ce que ça peut avoir dans votre serviette quand vous la mettez sur la tête, que vous avez votre cloche sur la tête et que vous avez dans les naseaux cette petite timbale d'ortolan avec les sylphides et le jus d'ananas. Alors la fameuse recette, alors, très très prisée, qu'il a emmenée en Angleterre, puisque vous savez qu'Auguste Escoffier a ouvert de très grands restaurants à Londres, a été un peu le mentor de beaucoup de grands chefs du début du XXe siècle. La timbale d'ortolan Rothschild, je crois que ça parle tout seul. Préparer une croûte de timbale. Deuxièmement, un foie gras truffé, cuit un peu rosé. 24 ortolans rôtis seulement. 2 minutes seulement à feu vif. 12 petites truffes cuites au madère. Oui, c'est vraiment un plat de Rothschild. Le tout étant prêt, placez le foie gras au milieu de la timbale, debout, l'entourez avec les ortolans disposés en deux rangées superposées et les truffes. Fermez la timbale avec son couvercle, soudez celui-ci avec une bande de pâte crue, remettre la timbale aussi garnie au four de chaleur moyenne pendant un quart d'heure environ. En la sortant du four, la remplir d'un fond de veau gélatineux et corsé, additionné de la cuisson des truffes. Pour le coup, ça va être corsé. Servir cette timbale au bout de 2 ou 3 jours seulement. Donc on est ici quasiment dans les recettes en froid. C'est quand même prodigieux. Alors voilà, nous y arrivons. Nous avons donc vu les recettes d'ortolans qu'on peut, j'imagine, extrapoler à d'autres espèces, bien sûr, donc avec des ingrédients du plus haut niveau, pour en faire des recettes chaudes. Voici maintenant les recettes froides, l'ortolan froid. Comment réaliser un aspic d'ortolan? Bien d'abord, on les rôtit et on les laisse refroidir. Puis les mouler dans une bordure de gelée fine, très limpide. Alors là, deuxième recette, une mandarine d'ortolan. Alors la fin de la saison de l'ortolan coïncide avec l'arrivée des premières mandarines, qui sont encore un peu aigrelettes, ainsi qu'il convient pour cette préparation. Cerner le dessus de l'écorce, retirer les quartiers des mandarines, les placer dans chaque écorce un ortolan rôti, froid. Remplir l'écorce de gelée très fine, légèrement acidulée et laisser prendre. Dresser une serviette en rapportant sur chaque mandarine le morceau d'écorce enlevé et ayant encore autant que possible la queue et quelques feuilles. Non mais c'est vraiment de la grande cuisine. L'ortolan doit passer de telle façon dans l'écorce que sa tête soulève le morceau rapporté. Attendez, c'est quand même du dressage. Timbale d'ortolan tzarine, une autre recette froide. En procédant comme il est indiqué pour la timbale de caille à la tzarine, donc c'est-à-dire quelque chose qui est gélifié quelque part, quoi. L'ortolan à la vendangeuse, donc c'est comme pour les cailles à la vendangeuse, là c'est une sauce qui est faite avec un fond de veau et des raisins confits. Voilà, donc quelque chose d'assez merveilleux, on l'imagine, bien sûr, mais qui devait enlever le goût authentique que nous recherchions tous dans l'ortolan, pour vous dire la richesse de ces recettes. Alors bien sûr, cette recette, elle va avec l'ortolan, mais elle va aussi avec son cousin germain, qu'on a un peu perdu de vue, mais moi je l'ai chassé, le becfig ou béguinette. Bien que cet oiseau, ces oiseaux soient d'espèces différentes, on rappelle quand même que leur valeur culinaire les destine aux mêmes apprêts que l'ortolan lui-même. Le becfig se trouve surtout dans les contrées méridionales, tandis que les béguinettes sont plutôt d'origine du nord. Il en est bien sûr consommé beaucoup en Belgique. Alors je vous donne quand même au moins la lecture de quelques recettes, parce que je trouve ça extraordinaire. La béguinette bonne femme, où on compte 3-4 oiseaux par personne, ce sont des petits oiseaux, hein. Et donc, comme pour les grives à la bonne femme, il faut les apprêter, les passer au poêlon avec un fond de sauce, et elles peuvent se manger autant froides que chaudes, bien évidemment. Les béguinettes à la liégeoise, avec un jus monté à la bière, absolument incroyable. Même les béguinettes, tenez-vous bien, à la polenta. On prépare une polenta, série de farineux, hein, bien sûr, et en la tenant à la consistance d'une purée de pommes de terre. Ensuite, on l'assaisonne, on lui ajoute du fromage râpé et du beurre, on la dresse en timbale et on fait sauter vivement les oiseaux au beurre et on les range sur cette polenta avant de les consommer. Imaginez un peu. Alors bien sûr, donc tout ce qui est vrai pour l'ortolan, chaud ou froid, va pour le becfig, va aussi bien sûr pour tous les autres oiseaux tels la caille, le perdreau. Je voulais quand même vous donner lecture de recettes qui sont plus proches de nous, parce que celles-là, elles sont accessibles aujourd'hui, bien sûr à condition d'être chasseur ou d'avoir un ami chasseur, mais c'est un mets qui est délicieux et hors cadre et hors norme en tout point. Il s'agit de la bécasse et ou de la bécassine. Alors on dit que si la grouse, cette fameuse grosse perdrix que l'on chasse dans les Highlands écossais sur les bords de mer, magnifique, qui s'apparentait ici avant à la perdrix royale, si la grouse n'existait pas, la bécasse serait le premier des gibiers à plumes, bien sûr, pour ceux qui la connaissent. Elle a sur la grouse, qui ne peut être estimée à sa valeur que dans le pays qu'elle habite, l'avantage que son fumet, d'après Auguste Escoffier, est moins fugace et qu'elle peut attendre plus longtemps son emploi. Quand on disait qu'à l'époque, l'expression « faisander » pour la bécasse, ça voulait dire qu'on la laissait suspendue par le cou, et que lorsque le cou cassé, normalement, la bécasse était prête, d'après la légende, à être consommée. Bon, il faut peut-être pas en arriver là, et bon, mais on prétend qu'elle est quand même réellement en possession de ses qualités que quand elle est légèrement faisandée. Donc sûrement pas 8 jours, mais un jour ou deux, certainement. La bécassine, c'est le moule réduit de la bécasse. Elle se distingue de celle-ci parce qu'elle vit presque constamment dans les marécages, tandis que la bécasse habite toujours les bois pourvus de mares. Donc on distingue comme variété de cet oiseau la bécassine commune, la double, qui est excessivement rare, la bécassine sourde, ou béco, qui est une petite bécassine, appelée aussi jaquet, la plus petite, mais aussi certainement la meilleure de toutes. Alors pour vous dire un peu si ces recettes sont nombreuses, je vous cite la bécasse à la mode d'Alcantara, donc un peu comme le faisan sur la mode espagnole, avec du lard, avec du jambon serrano, avec du vin de Jerez. La bécasse de carême, que l'on arrose d'un filet d'huile, on la rôtit en la tenant saignante. Aussitôt cuite, c'est un petit peu le principe de la ficelle chez nous, hein. Aussitôt cuite, la partager dans la longueur et faire 2 escalopes dans chaque moitié de l'estomac, délayer dans une sauteuse une demi-cuillerée de moutarde française avec un filet de jus de citron. C'est ce qui nous différencie de ce que nous faisons nous, qui est plutôt qu'on écrase tout ce corps, cet intérieur de la bécasse sur des tartines beurrées légèrement aillées. Ici, c'est avalé, délayé donc avec du jus de citron. Vous roulez dedans les morceaux de bécasse, estomac et cuisses, et les tenir au chaud, hacher des carcasses et les intestins sur une cuillerée de fumée de gibier et laisser cuire 5 minutes. Voilà, il y a des recettes, vraiment, s'il en est, très très pointues. Ensuite, on passe au chinois et on dresse sur une timbale chaude. On place la tête de la bécasse sur les morceaux pour décoration, bien évidemment. Bon, l'objectif, c'est quand même de mettre ces morceaux sur une tartine de pain qui est un peu imbibée des jus et de l'intérieur de l'estomac de la bécasse qui est très très boisé, quoi, qui rappelle les champignons ou le sous-bois. Alors une recette plus riche, c'est la bécasse à la fine champagne. Cuire la bécasse à la casserole et la découper en 6 morceaux, tenez-vous bien. Disposer ces morceaux dans une terrine ronde avec la tête dessus. Et voilà, et déglacer avec une fine champagne et servir. À mon avis, on devrait pouvoir manger un plat comme ça. et sans hésiter avec les doigts, parce qu'il faut pouvoir se lécher les doigts et se délecter d'une recette pareille. On a ensuite la recette de la bécasse favard, un peu comme le caneton rouennais soufflé. On y ajoute donc les intestins de la bécasse, parce que c'est un plat très noble, et que la bécasse, chaque fois qu'elle se lève donc de son endroit où elle est gîtée, eh bien, elle évacue tout ce qu'elle a à l'intérieur du corps. Donc on a toujours une tripe très propre, c'est pour ça qu'on cuisine la tripe de la bécasse avec le foie et les intestins. Donc le pochage de la farce demande 20 minutes en préparant une farce qui s'apparente de la recette médocaine qui, elle, prend 3 bécasses et la troisième permet de farcir les autres, de créer une farce avec les abats. On peut faire la bécasse en mousseline, on peut faire un pâté chaud de bécasse. Il faut quand même déjà en prendre un peu. Mais bon, j'ai des copains qui sont certainement en mesure de le faire. Donc en tenant compte du changement d'éléments, hein, donc voilà, un peu comme le faisan, mais bon, avec de la bécasse qui est quand même un oiseau nettement plus goûteux. Ne pas omettre d'ajouter à la farce gratin les intestins de la bécasse sautés au beurre passés au tamis et 100 g de foie gras par livre de farce, ce qui, à mon avis, va l'améliorer sacrément. Pour vous donner un ordre de grandeur, on peut faire de la bécasse à la riche, c'est-à-dire à la fine champagne. On peut faire du salmi de bécasse, ça c'est intéressant, comme la formule du salmi de faisan, ou même et surtout pour nous plus proche, salmi de palombe que je vous ai donné, je crois, dans une des dernières émissions que nous avons fait. Ensuite, le bécasse sauté au champagne, la bécasse sautée aux truffes. Et là, on va retrouver dans l'estomac de la bécasse tous ces goûts de sous-bois, de champignons, de truffes. Donc la truffe ne va faire qu'augmenter encore le parfum lorsqu'il va être, on va la déglacer au madère. Un soufflé de bécasse, ça c'est quand même incroyable, avoir une bécasse dans un soufflé. La bécasse Souvarov, voyez s'il y en a des recettes. En tenant compte de la grosseur de l'oiseau, eh bien on va procéder comme il est dit pour le faisan, c'est-à-dire en la farcissant de foie gras. Des suprêmes de bécasse en détachant les plus beaux morceaux des côtes de la bécasse autour des os. On tire avec l'aile l'essentiel de la chair des flancs de la bécasse. On peut faire une timbale de bécasse. Et une timbale de bécasse Saint-Martin, voilà, donc pour vous dire, lever les suprêmes et dresser la timbale en les alternant avec escalope de foie gras, sauter au beurre du moment, ça doit être quand même pas mal, plutôt pas mal, avec un coulis, et donc qu'on va arroser pendant la cuisson, et manger toujours cette recette de bécasse rosée. Bon voilà, on ne va pas non plus en parler pendant 107 ans, mais on aurait pu le faire pour la grive, l'alouette. Pour vous dire, je vous invite tous naturellement à retrouver ce guide extraordinaire qui est le guide des 900 recettes d'Auguste Escoffier. Et en allant sur internet, vous trouverez tout ce que vous voulez pour avoir la possibilité de vous procurer cette Bible sublime. Et bien sûr, on en reparlera naturellement dans une de nos émissions futures. Et n'hésitez pas en tout cas à la consulter, vous y allez y retrouver des recettes merveilleuses et dont certaines sont assez faciles à réaliser, malgré la complexité de l'ouvrage. En tout cas, merci à vous et à très vite sur nos ondes. Retrouvez Lou Gourmandas en podcast sur le site www.radio-mdm.fr. Adichas, à bientôt.